Radio Okapi.
Des mesures politiques, économiques et judiciaires sévères à l'encontre du Rwanda et de ses dirigeants, c'est ce que demande le gouvernement de la RDC à la communauté internationale. Pour le Congo-Kinshasa, les troupes du Rwanda opérant à RDC ciblent aussi les casques bleus et les infrastructures de la MONUSCO. Et ces faits constituent des crimes de guerre. Grande des administrateurs des territoires de la Tchopo, ils dénoncent le non-paiement de leur salaire de 17 mois. Dans ce journal, les propos de leur porte-parole Verdotte Yamulamba Kadita. Le chef intérimaire de la MONUSCO et coordonnateur humanitaire à RDC est notre invité. Bruno Lemarquis a effectué jeudi une visite dans la commune rurale d'Oicha, au Nord Kivu, pour évaluer la situation des milliers de déplacés dans la zone. Bonjour à tous. Au micro, Noëlla Luzitu. Mais avant le développement de tous ces titres, à Kinshasa, le corps sans vie d'un troisième chauffeur de taxi a été découvert ce vendredi matin devant la direction du Fonds pour la promotion de l'industrie FPI, non loin de l'ambassade des États-Unis. C'est le troisième cas dans la commune de la Gombe en une semaine. Comme les deux précédentes victimes, celle de ce vendredi avait également les mains et les pieds liés, mais aussi cette fois la bouche bâillonnée par un linge. Ceci porte à 6 le nombre de personnes tuées depuis jeudi dernier dans la ville de Kinshasa. Outre ces conducteurs, un magistrat, un agent de service de sécurité et un motard ont aussi été abattus par des bandits armés. Le gouvernement congolais appelle la communauté internationale à prendre des mesures politiques, économiques et judiciaires sévères à l'encontre du Rwanda et de ses dirigeants. Les troupes du Rwanda opérant à RDC ciblent aussi les casques bleus et les infrastructures de la MONUSCO. Ces faits, note-t-il, sont constitutifs des crimes de guerre. Dans un communiqué publié hier, le ministre de la Communication et des Médias réagit ainsi après avoir, dit-il, pris connaissance du récent rapport du groupe des experts des Nations Unies sur la RDC transmis au président du Conseil de sécurité le 31 mai dernier. Ce rapport, écrit le porte-parole du gouvernement, présente des preuves accablantes et indiscutables de l'agression de la RDC par le Rwanda. Le condensé de la réaction de la RDC avec vous, Alain Hirong.
Le rapport des experts des Nations Unies affirme, souligne Patrick Muyaya, que le Rwanda utilise près de 4000 militaires, nombre largement supérieur à celui des terroristes du M23, comptant aussi des enfants mineurs et des personnes recrutées notamment de force dans les localités sous occupation et dans les camps de réfugiés au Rwanda et en Ouganda. En outre, le ministre de la Communication et des Médias dit que le gouvernement congolais prend acte des informations faisant état des cas de rapprochement circonstanciel à des niveaux non politiques ni stratégiques, de certains agents publics avec des groupements non étatiques sous sanction des Nations Unies et qui endeuillent principalement des populations congolaises. Il se félicite de ce que les experts reconnaissent l'existence des directives et sanctions prises par les autorités congolaises pour décourager ce genre d'incidents et reste engagé à exploiter ces informations en vue d'en dégager d'éventuelles responsabilités. Enfin, le gouvernement de la RDC rappelle que toutes les fois que des graves soupçons des crimes et d'autres actes illégaux ont pesé sur des agents publics impliqués dans cette crise, il s'est toujours assuré que les présumés auteurs en répondent devant des juridictions compétentes.
Au Nord Kivu, un militaire des FRDC, auteur du meurtre d'une fillette et des blessés par balle au camp de déplacés de Lushagala, a également été mis à mort par la population en colère. Les faits ont eu lieu dans la soirée d'hier jeudi dans ce site du quartier Mugunga, dans la partie ouest de la ville de Goma. Cet incident suscite beaucoup de réactions quant à la sécurité des personnes déplacées internes. Chris Mukand.
Lushagala ou Kimashini, c'est dans ce site où le drame s'est produit. Des rafales tirées par un militaire dont l'unité n'a pas été identifiée ont fait des dégâts énormes. Une fillette âgée de plus ou moins 12 ans est atteinte d'une balle et morte sur le coup. Une autre balle a terminé sa course dans l'épaule d'une dame, personne de troisième âge, et d'autres personnes ont été blessées dans la débandade créée par ce tireur. Tels sont les faits tels que relatés par des témoins indépendants, et de préciser que la colère de ce militaire en état d'ébriété a été suscitée par le refus de ses avances faites à une dame. C'est en visant celle-ci que les tirs sont allés dans tous les sens. Des incidents du genre sont de temps à autre signalés dans les milieux de déplacés, ce qui pousse la société civile à demander que soit scrupuleusement appliquée la mesure de l'autorité provinciale interdisant l'accès des hommes en armes dans les sites des déplacés. Du côté de la 34e région militaire, pas de réaction jusqu'à maintenant. Chris Mukand, Goma, Radio Kapi.
C'est en adoptant les principes déontologiques, patriotiques, que nous allons vaincre l'ennemi et mettre fin à la guerre au Nord Kivu. C'est la recommandation du Conseil territorial de la jeunesse de Rutshuru à la population en général et à la jeunesse notamment. C'est dans le cadre de la campagne de sensibilisation que mène cette structure de la jeunesse. Pour le président de cette structure, si tout le monde adoptait le principe patriotique, c'est de cette manière que la population pourrait se libérer des mains de l'ennemi. Au micro de Denise Lukeso, Patient Tuiseré évoque ces quelques principes à adopter.
Non au discours de haine, non à la stigmatisation, non à la désinformation, non aux intox, non au tribalisme, non au recrutement forcé des mineurs et de jeunes dans les forces négatives, non au pillage de nos ressources naturelles par les Rwanda et l'Ouganda, non à la trahison de la RDC, notre beau cher pays, oui au soutien total aux FRDC et aux vrais Ouazalènes, oui à l'éveil patriotique, c'est-à-dire la patrie ou la mort, oui au zéro traite, oui à l'adhésion au programme du PDDRCS. Si tout le monde appliquait ces principes, les Rwanda, l'Ouganda n'aura pas de place en RDC. Mais également, avec ces principes, il y aura un changement positif au sein de la population. Et avec ces principes, ça sera facile de mettre hors d'état de nuire l'ennemi qui nous agresse, qui est le Rwanda et l'Ouganda. C'est pourquoi nous avons pensé à ça, pour sensibiliser notre population, d'adopter ces principes pour qu'il y ait un changement au sein de la population. Mais également, nous voulons rappeler à chaque Congolais d'être patriote. C'est pourquoi nous avons énuméré les quelques principes, notamment...
En Ituri, l'activisme de groupes armés affecte le bon fonctionnement des églises dans plusieurs entités de la province. Selon les statistiques publiées ce vendredi par le Conseil des confessions religieuses de l'Ituri, une centaine des lieux de culte ont été détruits, incendiés ou saccagés par des miliciens depuis décembre 2017 dans les territoires de Djougou, Irumu, Aru et Mambasa. Le Conseil des confessions religieuses de l'Ituri plaide pour la restauration de l'autorité de l'État dans ces entités. Martial Kizabiamungu.
Presque toutes les confessions religieuses, catholiques, protestantes, musulmanes et de réveil sont affectées par les atrocités des groupes armés à l'Ituri. La communauté musulmane est la plus touchée avec 25 mosquées détruites ou incendiées, sans compter les écoles et 5 imams tués. Elle est suivie par la communauté Emmanuel 39 avec 22 chapelles détruites. Selon les conseils des confessions religieuses, 7 paroisses du diocèse de Moubleu et une dizaine de la CEPAC ne sont pas opérationnels. Cette structure indique que les assaillants ont également détruit plusieurs infrastructures de l'église catholique à Fataki, Lita et Drodro et des stations missionnaires de l'église Kimbanguste dans les territoires des Djoukou. Le pasteur Ignace Bingui, président du CCRI, plaide pour les retours de la paix à Ituri et l'appui du gouvernement pour la reconstruction de ces infrastructures.
Puisse aussi prêter une attention à tout ce qui est comme infrastructure sociale.
Plusieurs écoles de différentes confessions religieuses sont également fermées à la suite de l'insécurité et tous les élèves et les fidèles en déplacement. Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Province de la Tchopo à présent, les administrateurs des territoires dénoncent le non-paiement de leurs salaires. Ils l'ont fait savoir hier au terme d'une réunion en ligne. Selon eux, ils viennent de totaliser 17 mois sans être payés et ils ne perçoivent ni les frais de fonctionnement ni la prime d'itinérance. Ils estiment donc inutile l'existence des entités territoriales car non prises en compte, selon eux, dans le budget congolais. Verdot Yamulamba Kadita, porte-parole des administrateurs des territoires de la Tchopo, s'exprime au téléphone de Jacques Moukonkolé.
Même la Bible le dit, le travail mérite salaire. Mais tous les moyens sont déjà épuisés. On ne sait plus encore quoi faire, quoi dire. Dans les médias, on a déjà parlé, même à la RTNC, on a parlé, mais on ne nous a jamais répondu. Bientôt, sous 17 mois, nous vous disons bien 17 mois, on ne nous a jamais payé ni nous doter même les moyens logistiques. Donc, même pour écrire une lettre au territoire, Vous êtes déconcentrés. Vous n'avez pas ni tasse ni quoi. Il faut mendier même pour écrire une lettre. Il faut aller chercher qui peut vous donner papier. Il faut aller dans un bureautique privé, les secrets d'État. Mais c'est nous qui gérons à la quotidienne. Hein, le conflit communautaire, c'est la terre. Partout, il y a problème. C'est la traité du territoire. Mais cette terre-là est impayée. C'est pour cela qu'on a des dérives. Est-ce que ne serait-il pas possible que même l'actuelle assemblée propose une loi qu'on supprime les territoires parce qu'on constate que depuis 2006, on a déconcentré les territoires. Le gouvernement congolais n'a jamais pris en charge le fonctionnement des territoires et le PIM et les salaires des animateurs des territoires. Il n'y a pas une ligne budgétaire pour le fonctionnement ni le paiement des animateurs des entités déconcentrées et les canons des animateurs des territoires. Il n'y en a pas.
Dans la province du Kwilu, la banque Tembe, agence de banque d'Ondouville, est scellée depuis 3 jours par la Direction générale des recettes administratives domaniales et de participation des Gérades Grand Bandundu. Cette banque est accusée de ne pas être en ordre avec les taxes à payer à la DGERAD, situation qui compromet la paye des fonctionnaires de l'État. Le point avec Irène Bomaluzolo.
C'est depuis mardi 9 juillet 2024 que toutes les portes de la banque Tembe, agence de Bandundu, sont hermétiquement fermées par la direction générale de la DGERAD Kwilu. Jean-Louis Tombolo est le directeur général AI de la DGERAD. Il explique la raison de cette action menée par son service.
C'était dans les prérogatives légales de la DGERAD de poursuivre un assujetti, donc c'est-à-dire que toute personne qui n'a pas payé ses taxes, et de procéder soit à la saisie des biens, on peut saisir les comptes, ou soit on peut fermer provisoirement les installations. C'est comme le cas échéant, ce que nous avons fait. Je pense que dans les heures qui suivent, il y aura une suite favorable pour vu que la TMB manifeste la bonne volonté.
Préoccupé par cette situation, le ministre provincial en charge des finances du Kwilu a réuni jeudi dans son cabinet de travail les deux parties afin de trouver une solution idoine pour que cette banque puisse poursuivre ses opérations de paye des agents et fonctionnaires de l'État. Papi Mitete.
Nous avons appelé les deux parties et nous nous sommes convenus et la TMB a pris ses engagements et tout est en ordre.
Signalons que cette nouvelle inquiète plusieurs habitants de la ville de Bandundu, car la TMB est la banque phare qui s'occupe de la paye des fonctionnaires. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Au Kasaï central, la commission Paix, Vérité, Justice et Réconciliation a connu du retard par rapport à son opérationnalisation pour faire la lumière sur ce qui s'est passé dans la région du Kasaï lors des événements de Kamuina-Nsapu. Dominique Kambala est au micro de François Kadima.
Entre le 21 juin et le 22 août 2022, il s'est écoulé presque une année sans que le commissaire ne soit investi. Il a fallu attendre l'avènement du gouvernement John Kabeya pour que finalement le commissaire soit investi. La commission a commencé le processus de son opéralisation au mois d'août. La commission devait construire ses matériaux. En termes d'outils, de stratégies, nous avons dû travailler pendant encore une autre année. Au-delà de ça, la commission avait un problème en termes d'un siège. La reconduction du mandat, elle doit se justifier de droit. Du fait que, indépendamment de notre propre volonté de mieux faire, pour faire la lumière sur la vérité en ce qui concerne les crimes graves commis dans la région du Kasaï, que nous puissions avoir une rallonge qui permet à ce que nous puissions terminer totalement ce travail afin que plus jamais ça.
Plus d'une semaine après le début de l'opération Zéro Taxi Moto au centre-ville de Lubumbashi, l'atmosphère semble avoir changé. La ville semble plus aérée et les embouteillages ont diminué. Certains habitants de Lubumbashi rencontrés demandent à l'autorité urbaine de s'attaquer aussi aux chauffeurs des taxis et taxibus qui sèment le désordre dans la ville. Un reportage de Jean Gandou.
À première vue, lorsqu'on est au centre-ville, notamment à la Grande Place de la Poste, le premier constat est que la circulation est fluide. Les motocyclistes qui s'y amassaient, au point d'obstruer le passage, ont disparu. Et cela à la grande satisfaction de quelques loucheurs rencontrés.
Ça, on ne peut pas se voiler la face. On a vu qu'il y a quand même une propriété par rapport à ce qui se passait ici. C'est un peu bien par rapport à la fluidité.
Depuis qu'ils ont quitté la ville, il y a quand même une bonne circulation. Il y a une aération qui se passe mieux. Concernant l'ordre public, il y a a quand même une évolution par rapport à leur absence.
C'est bien par rapport à la propriété, premièrement. Deuxièmement, la ville était saturée.
Les motocyclistes qui ont quitté le centre-ville se retrouvent nombreux au coin de certaines avenues, dans les limites fixées par la mairie de Lubumbashi, ce qui fait redouter le cas d'accident à certains Louchois. D'où la proposition faite par ce changeur de monnaie.
L'État peut faire ces parkings-là payants et l'État peut bénéficier.
Si le centre-ville est débarrassé des motocyclistes, d'autres Louchois demandent au maire de Lubumbashi de prendre aussi des mesures contre les chauffeurs de taxis et taxibus qui stationnent n'importe où, car les mêmes causes produisent les mêmes effets, ce qui, en définitive, pourrait anéantir les efforts des autorités de rétablir l'ordre. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Deux bus transportant au moins 60 personnes ont été emportés dans un glissement de terrain dans une rivière en crue dans le centre du Népal ce vendredi matin. Trois survivants ont apparemment réussi à se mettre à l'abri à la nage, mais en fin de matinée, les sauveteurs n'avaient toujours trouvé aucune trace des bus. Les deux bus se trouvaient sur l'autoroute principale reliant la capitale aux régions méridionales du Népal lorsqu'ils ont été emportés vers 3h du matin. La police et l'armée effectuent des recherches à l'aide des canaux pneumatiques. Des plongeurs équipés des scaphandres ont également été envoyés sur place.
L'invité.
L'invité de ce journal, c'est le chef intérimaire de la MONUSCO et coordonnateur humanitaire en RDC. Bruno Lemarquet a effectué hier une visite dans la commune rurale d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni au Nord-Kivu, pour évaluer la situation des milliers de déplacés dans la zone. Il annonce que les Nations Unies vont poursuivre avec le plaidoyer pour une amélioration des conditions des déplacés en attendant leur retour dans leur milieu d'origine. Bruno Lemarquet s'entretient à ce sujet avec Sadiki Aboubakar.
Bruno Lemarquet, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de visiter Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Cette zone qu'on considère comme déversoir des déplacés dans le Grand Nord Kivu. Quelle est la situation humanitaire dans cette zone?
Alors, comme vous l'avez dit, on est en visite aujourd'hui sur la commune de Oicha. On a eu des très bonnes discussions toute la matinée avec des déplacés pendulaires. Ils s'appellent eux-mêmes les déplacés pendulaires parce que certaines personnes, on vient en fonction de l'insécurité et des actes des groupes armés. On a visité des projets avec les partenaires des Nations Unies, des ONG internationales, des ONG nationales. On nous a expliqué avec la solidarité qui existe au Congo, 70% des déplacés à Oicha vivent dans les familles d'accueil où elles sont bien reçues. Donc c'est juste la minorité d'entre elles qui vivent dans les sites de déplacés. Bien sûr, les conversations qu'on a eues avec ce matin demandent toujours la même chose. Partout au Congo, on demande toujours la même chose. Le retour de la sécurité, le retour de la paix et notamment les peuples autochtones sont vraiment coupés de leur environnement, de leur milieu, de leur forêt, de leur culture, de leur mode d'alimentation, de leur source d'alimentation, ils ne se retrouvent pas du tout dans les camps de déplacés. Ils ne se retrouvent pas.
Alors, on les estime par milliers, des familles de déplacés à Oicha. Comment les humanitaires aident-ils la RDC à faire face à cette situation? Parce que ce n'est pas seulement Oicha, c'est toute la région est du pays qui fait face à cette problématique des déplacements des populations à cause de l'insécurité.
Il faut même dire que c'est au-delà de l'Est, puisqu'il y a d'autres parties du pays, des crises dont on parle moins parce qu'elles sont plus locales, mais il ne faut pas oublier la crise du Maïdombé qui a aussi entraîné des conséquences humanitaires, à la Tchopo, etc. Il y a d'autres zones de tension. Dans l'Est de la RDC, à cause de la détérioration de la situation, notamment depuis les deux dernières années, il y a une aggravation très nette de la situation humanitaire. Quand on parle de la détérioration de la situation de sécurité, c'est bien sûr la crise du M23, les avancées du M23, qui chaque fois ont comme conséquence des déplacements de population, l'activisme des ADF dans la zone où nous sommes actuellement, avec d'horribles massacres contre les populations civiles. Hier, avant-hier, nous étions en Ituri, donc là, c'est le cycle de représailles, notamment avec l'activisme de la CODECO, etc. Où nous en sommes au jour d'aujourd'hui en termes du nombre de déplacés au Congo, c'est 7,3 millions, voire plus avec les derniers déplacements des combats il y a deux semaines autour de Kanyabayonga. Donc c'est une situation parmi les pires au monde. C'est la plus prolongée du monde.
Concrètement, quels sont les projets des humanitaires dans le but de pouvoir aider ces personnes?
Malgré toutes les contraintes, notamment de financement, ici, les sites qu'on a visités ce matin, des abris en bois, des maisons ont été construites pour les déplacer. Ce n'est pas les camps de tente. Les conditions qui sont, par rapport à d'autres sites, qui sont assez bonnes. Toute la question des distributions de nourriture, dont les gens nous ont beaucoup parlé, notamment les peuples autochtones, parce que ça ne correspond pas exactement à la nourriture dont ils ont l'habitude. On a visité des projets très intéressants et là, d'où je vous parle, nous sommes devant un projet d'adduction d'eau avec un forage parce qu'il faut faire attention à ne pas donner l'aide seulement aux déplacés dans les sites de déplacés parce que ça crée des tensions.
Et en matière de soins de santé primaire.
Soins de santé primaire, on a visité ce matin le projet d'une organisation internationale qui s'appelle Alima. Donc ils ont des cliniques mobiles, une clinique qui bouge chaque jour. Ils couvrent un nouveau site et donc ils travaillent avec le personnel de la zone de santé également qui le supporte. Donc il y a beaucoup de choses qui se fait dans cette zone, c'est jamais assez. Et puis bien sûr, comme tout le monde dit, personne ne veut être dans cette situation. Tout le monde veut retourner cultiver ses champs, manger sa nourriture dont on a l'habitude. Donc c'est la paix et l'appel vraiment de tout le monde aux autorités nationales pour faire ce qu'il faut en termes des dialogues politiques et des actions sur le terrain pour que la paix revienne.
Pourquoi la crise humanitaire en RDC, l'une des deux ou trois pires crises dans le monde, peine-t-elle à toucher le monde? Et on parle des crises oubliées, certains médias en parlent pourtant, mais pourquoi la RDC peine-t-elle à mobiliser la communauté internationale?
D'abord, il faut dire qu'il y a beaucoup qui se fait. La communauté internationale est très motivée, très impliquée, mais on parle de chiffres tellement faramineux ici en termes de besoins que bon, c'est difficile à suivre au niveau financier. Il y a aussi la durée de cette crise qui dure depuis 30 ans. Il y a sa complexité, c'est vraiment complexe à comprendre. Ça dure depuis longtemps, il y a d'autres crises dans le monde qui sont plus exposées médiatiquement et de manière géopolitique. La crise en Ukraine, la crise à Gaza, etc. Donc ça prend beaucoup de l'attention médiatique, de l'attention politique, de l'attention en termes d'appui financier. C'est pour ça que nous, on fait tout ce qu'on peut avec le gouvernement pour constamment mettre en exergue cette crise, rappeler que c'est une crise qui ne peut pas être oubliée parce que c'est une crise terrible. Il y a des souffrances incroyables au Congo à cause de tous ces conflits, de tout le mal que font ces conflits, ces groupes armés, etc. Donc vous, les médias, vous avez aussi un grand rôle pour continuer toujours à bien expliquer la crise du Congo.
Bruno Lemarquis, merci.
Merci beaucoup.
C'est donc par cet entretien entre Bruno Lemarquis et Sadiki Aboubakar que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi, mis en onde par Jean-Noël Mokondo, dans une coordination de Jacques-Yves Molima. Restez en compagnie des programmes de Radio Okapi.